Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
Il y a un texte dans le Devoir de ce matin, oui, de ce matin, qui se pose la question, est-ce que le dessin de presse est mort au combat? Autrement dit, est-ce qu'il y a de la relève pour les caricaturistes? C'est de ça qu'on va parler avec Steve Fortin. Bonjour Steve.
Oui, salut.
Est-ce que ça t'inquiète, toi?
Oui, ça m'inquiète. Je suis un passionné de dessin d'opinion, de caricature. De dessin de presse, peu importe comment on le positionne là. Je suis un passionné de ça depuis longtemps et sous tous les angles, que ce soit celui du Québec, bien entendu, dans le Canada anglais, mais aussi de par le monde. Et il faut quand même le dire que le texte de Caroline Monpetit ce matin, c'est rien de nouveau. Je me souviens que Jean-François Nadeau en avait écrit un où il donnait la parole sensiblement aux mêmes experts, là, dont l'écrivaine Mira Falardeau qui a écrit beaucoup sur le sujet. Mais à l'époque, en 2019, on se questionnait parce qu'on se disait, ben voyons, le New York Times qui, suite à des controverses de dessins d'opinion, décide d'abandonner ça. Et abandonner le dessin de presse pour un titan, là, pour un phare de médias comme le New York Times, c'est quelque chose. Si on va lire par rapport à cette décision-là, à l'époque, ça avait fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. On est en 2019. On n'est plus à l'abri de ça. Et les controverses par rapport aux dessins d'opinion, il y en a souvent. On se souvient récemment de Boris, sa caricature dans Gazette, mais pas que ça. Et j'ai pensé peut-être nous rappeler là un cas en particulier qui avait fait beaucoup jaser dans le Canada anglais. Et pour une fois, on était au diapason au Québec et au Canada anglais parce que il y avait eu une controverse qui avait touché tout le monde là.
C'était laquelle, la controverse? Laquelle tu parles? Sous de Boris?
Non, là, je vais retourner en arrière. On est encore une fois en 2019, mais là, c'est bien de chez nous, là. Il y a Justin Trudeau qui se coltaille, là, mais ferme, avec une de ses ministres, devenue ex-ministre d'origine autochtone, Jody Wilson-Raybould. Là, c'était la guerre dans le cabinet. Et finalement, elle est expulsée. Et il y a un caricaturiste du Canada anglais, Greg McKay. Il publie un, comme on dit en anglais, là, un editorial cartoon, donc un dessin éditorial pour le Hamilton Spectator. C'était le 15 février 2019 et c'était marqué l'affaire SNC-Lavalin, parce que c'est comme ça qu'on la qualifiait à ce moment-là. Judy Wilson-Raybould est dans un ring. Justin Trudeau, qu'on sait boxeur, hein, s'était battu, on se souvient de son combat là, avec Patrick Brazeau, le devenu sénateur. Donc, Justin Trudeau est dans un ring, il a les bras dans les airs, une petite rose à la bouche, et enchaîné un boulet par terre attaché, il y a Judy Wilson-Raybould. Et ça, ça avait fait beaucoup jaser. Beaucoup de gens avaient dit, mais c'est inacceptable de positionner comme ça la femme. Et il y avait plusieurs angles là, qui avaient été critiqués à ce dessin-là. Et par la suite, j'ai recensé une bonne douzaine de caricatures de différentes plumes partout dans le Canada et au Québec. Des gens qui étaient rebondis là-dessus et qui avaient fait, par exemple, un contre-dessin ou une contre-caricature, mais cette fois-ci avec Judy Wilson-Raybould, qui, par la faveur populaire, avait fini par rendre la monnaie de sa pièce.
Voilà, et le mettait KO. Et le mettait KO. Voilà, mais c'est-à-dire que...
On en avait vu plein de dessins comme ça.
Oui, c'est-à-dire que tu peux pas, de toute façon, dissocier caricature et controverse. Si tu as peur de la controverse, ben publie pas des caricatures. C'est sûr que par définition, une caricature, c'est quelqu'un qui prend son crayon et qu'il trempe et qu'il met, qu'il rentre dans la plaie et qu'il met là où ça fait mal. Parce que si c'est pas là où ça fait mal, c'est pas drôle, puis ça s'appelle pas une caricature, ça s'appelle des petits dessins ou alors des dessins animés. Je veux dire, dessine des chats dans ce temps-là si t'aimes pas la controverse. Donc, moi, le problème que j'ai avec le texte du Devoir de ce matin, c'est que les gens qui sont interviewés disent, bon, dans les journaux en ce moment au Québec et au Canada en général, ce sont des hommes blancs vieillissants qui font des caricatures. C'est donc épouvantable. Je m'excuse, mais en quoi l'âgisme, c'est devenu une discrimination qui est acceptable aujourd'hui? On est-tu en train de dire à ces gens-là, tasse-toi mon oncle, sur la simple base de leur âge? Est-ce qu'on prouve qu'ils sont non pertinents à cause de leur âge? Faites-en la démonstration, mais juste de déplacer du revers de la main quelqu'un simplement en disant, il est vieillissant, faudrait qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, mais que ça s'appelle de l'âgisme.
Oui, et là, il faut rappeler une chose. Moi aussi, ça m'a tiqué. Être caricaturiste, on le voit, on en connaît au Québec. Je veux dire, c'est un métier qu'on peut pratiquer pendant 40 ans. C'est quoi la date de péremption de quelqu'un qui décide de faire ce métier-là? Je veux dire, c'est la pertinence qui décide de la longévité de quelqu'un ou de sa non-longévité. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un n'est plus pertinent, il va perdre sa job, on va le déplacer. Et il y a des gens qui... parce que moi, je regarde certains caricaturistes québécois ou canadiens. Moi, je regarde pas leur âge. Il y en a là-dedans qui ont une perspective historique par rapport aux faits et qui vont être capables, justement, de prendre
exactement
un éventail très, très large de l'actualité. Puis je trouve que c'est quelque chose... Est-ce qu'on pourrait en ramener un petit peu plus? Permets-moi quand même de dire que à l'Université du Québec en Outaouais, à l'École multidisciplinaire de l'image, on donne des cours de bande dessinée, mais il y a aussi un cours donné sur le dessin d'opinion. Et il faut quand même dire qu'il y a dans la palette des gens qu'on forme là-bas, parce que c'est un super beau programme à l'Université du Québec en Outaouais, à l'UQO, il y aura de la relève. Mais est-ce qu'on... Je veux dire, c'est pas des postes. Il y en a pas 500 de postes de caricaturistes. On peut certainement pas dire aux gens, ben tasse-toi parce que là, maintenant, t'as dépassé 60 ans puis on veut plus de toi. Ça fonctionne pas comme ça. D'autres vont réussir à faire la place, c'est certain. Mais voilà. Et permets-moi aussi d'ajouter, je vais absolument revenir là-dessus parce que ça touche Y qui est chez nous, hein, donc Yannick Lemay.
Au Journal de Montréal, Journal de Québec, oui.
Ben oui. Et quand il y avait eu cette controverse-là, quelques jours après, Yannick Lemay publie une caricature que moi, j'avais trouvée, quand je l'ai revue aujourd'hui, j'ai dit, oui, elle était bonne. Donc, Judy Wilson-Raybould, mais là, il la dessine à la façon caricaturale, en indienne, avec un tomahawk et puis les plumes et tout ça. Et elle fout une baffe à Justin Trudeau, qui est très amoché avec un casque de boxe SNC-PLC, SNC-Lavalin et tout ça. Il avait fallu qu'il s'excuse, Yannick Lemay. Puis là, ben ça avait rebondi dans tous les journaux canadiens et anglais. Et là, ben encore une fois, la controverse. Ce qui arrive avec ce métier-là, c'est que les contours de ce métier-là et la rectitude politique qui l'entoure, ben de plus en plus, ça fait dire à des caricaturistes, dont un des préférés au Canada anglais, Michael D. Adder, qui, lui, avait perdu son poste parce qu'il avait osé aller contre la ligne éditoriale d'un des nombreux nombreux journaux de plan là, au Nouveau-Brunswick d'Irving. Il avait perdu sa job à cause de ça parce qu'il avait fait un dessin très, très critique de Donald Trump. Puis on l'avait, lui dit qu'on l'a congédié pour ça. Mais voilà, la limite à la liberté d'expression maintenant, elle n'est pas nécessairement toujours... La rectitude politique, il y a ça, mais il y a aussi de plus en plus le fait que quand on écrit maintenant, il faut regarder aussi derrière son épaule, et ça, il y a plusieurs caricaturistes qui l'ont dit.
Oui, il faut regarder par-dessus son épaule, pas juste parce que tu risques de perdre ton emploi, mais tu risques de perdre la vie. Et évidemment, là, on fait référence à l'attentat terroriste islamiste à Charlie Hebdo. Et il faut rappeler aussi, c'est d'ailleurs ce que fait le Devoir dans son texte, rappeler que Samuel Paty, qui était un simple professeur d'histoire-géographie, est mort égorgé parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet dans sa classe. Donc, et c'est pour ça que il faut qu'il continue à y avoir des caricatures, justement parce qu'il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens, ils sont roulés en boule par terre parce qu'ils aiment pas le fait qu'on dessine tel ou tel personnage, qu'on dise telle ou telle chose, qu'on critique telle ou telle idéologie. Et justement parce que ça les écœure, justement parce que ça les dérange, justement parce que ça les offense, ben il faut continuer à le faire. Merci beaucoup, Steve Fortin.
Certainement.